Alors, comment on fait pour faire disparaître près de 10% de ses effectifs en une seule année, et ça sans déclencher le moindre plan de licenciement économique massif?
C'est toute la question, oui.
C'est ça. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration en profondeur d'une documentation qui, franchement, révèle une ingénierie sociale et financière particulièrement complexe. En fait, on va décortiquer un rapport de 134 pages qui a été rédigé par le cabinet d'expertise CECAFI et qui est analysé à travers une note de communication syndicale de la CGT.
Tout à fait.
Et donc, le périmètre qu'on analyse aujourd'hui, c'est celui de la Société Générale, avec une vraie focale sur la politique sociale qui est projetée pour 2025.
Et c'est vraiment le genre de document qui est, disons, une mine d'or pour comprendre la mécanique interne des très grandes restructurations.
Absolument.
Mais bon, ça exige quand même une grille de lecture très rigoureuse. Je veux dire, on est face à un tract syndical qui analyse un rapport d'expertise indépendant, donc c'est par nature un texte politique, quoi.
Ouais, c'est structuré pour dénoncer.
Exactement, dénoncer une stratégie d'entreprise. Donc c'est hyper important de rappeler que notre rôle ici, c'est pas du tout de valider la position de la direction de la banque, ni d'endosser les revendications du syndicat.
Bien sûr, le but pour quiconque s'intéresse à ce sujet, c'est vraiment d'étudier objectivement les données, de comprendre la rhétorique qui est utilisée des deux côtés et de démonter un peu les mécanismes de cette confrontation.
Voilà, on garde une neutralité absolue sur le fond, on analyse la forme et les chiffres.
Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Ce qui retient tout de suite l'attention, en tout cas au début du document, c'est vraiment l'ampleur de la contraction des effectifs.
Ah oui, c'est massif.
Le document syndical, il parle d'une perte nette prévue de 4693 personnes en un an. Juste pour donner un ordre d'idée, ça veut dire passer de 50 424 collaborateurs fin 2024 à 45 731 fin 2025.
Ouais, c'est une sacrée chute.
Ben, c'est une chute brute de 9,3% sur un seul exercice comptable, quoi. Et le rapport CECAFI précise même que c'est la plus forte baisse enregistrée depuis 2010.
Et ce qui est fascinant ici, au-delà du volume brut, c'est vraiment la vélocité de la manœuvre.
La vitesse, oui.
C'est ça. Le document syndical y met en lumière une baisse de 15,7% sur la période allant de 2023 à 2025. Et pour illustrer un peu cette accélération, la CGT souligne que le rythme de réduction, il est 12 fois supérieur à la moyenne qu'on observait sur la très longue période de 2010 à 2022. 12 fois plus vite, quoi.
12 fois, ouais. C'est pas rien.
Non, c'est clair. Après, la communication officielle de la direction, elle justifie cette phase par le besoin de créer des synergies, en fait.
Oui, l'argument classique.
Voilà, notamment à travers l'absorption du réseau du Crédit du Nord, qui est présenté par la direction comme une étape de consolidation tout à fait logique.
Ce qui, du coup, soulève une vraie question d'interprétation des données. C'est-à-dire que la création de synergies, c'est l'argument standard dans absolument toute fusion.
Tout à fait.
Mais là, la CGT propose une lecture radicalement opposée. Elle qualifie cette absorption, et là je cite, de prétexte à un épurement massif.
Le terme est fort.
Très fort. Et là où la stratégie devient techniquement intéressante à analyser, c'est dans le ciblage précis de ces réductions. Parce que le document note que les effectifs de techniciens ont déjà fondu de 43% depuis 2010. Bon, l'automatisation, la digitalisation des processus, ça explique largement cette baisse historique des fonctions de back-office.
Ouais, c'est une tendance de fond.
Mais là, les projections pour 2026 annoncent une nouvelle baisse de 10,7%. Et cette fois, et c'est là que c'est crucial, le curseur se déplace vers l'encadrement.
Ben oui. Et ce déplacement du curseur vers la population des cadres, ça modifie entièrement l'équation financière pour l'entreprise.
Comment ça, précisément ?
Eh bien, toucher à l'encadrement, c'est s'attaquer à une structure de coûts qui est très différente. On parle de salaires beaucoup plus élevés et surtout d'indemnités de départ qui sont potentiellement beaucoup, beaucoup plus lourdes.
Ah oui, logiquement.
Donc, c'est ce qui rend l'analyse de la CGT pertinente sur le plan de la stratégie globale, en fait. Le syndicat tente de démontrer qu'on n'est plus du tout dans une simple adaptation d'un réseau d'agences à l'ère numérique, mais qu'on procède vraiment à une refonte structurelle complète des coûts de management.
Bon, décortiquons cela avec une petite analogie. C'est un peu la différence entre tailler les petites branches d'un arbre pour le renforcer, avec la digitalisation, et là commencer à couper directement dans les grosses branches, voire dans le tronc.
C'est une bonne image, ouais.
Du coup, comment une institution peut-elle maintenir son équilibre face à une telle perte de volume en si peu de temps? Et surtout, la question de la méthode légale devient incontournable.
Absolument. Le droit du travail en France est très encadré.
Voilà. Dans le droit français, on ne raille pas 10% d'une masse salariale d'un trait de plume, sans déclencher ce qu'on appelle un plan de sauvegarde de l'emploi, un fameux PSE.
Un processus lourd.
Très lourd. avec tout ce que ça implique de négociations, de coûts prohibitifs, de surveillance par l'État, etc. Et pourtant, le document indique que les effectifs en CDI ont baissé de 4,5% en 2025, sans licenciement économique massif.
C'est là que ça devient fascinant d'un point de vue juridique.
Alors, l'explication technique, elle se trouverait dans la suppression d'une clause très spécifique, ce qu'ils appellent le fameux chapitre 3.
Oui, le chapitre 3, c'est vraiment la clé de voûte de l'argumentation syndicale sur, disons, l'ingénierie juridique de toute cette restructuration.
Qu'est-ce que c'était, ce chapitre 3 ?
En fait, c'était issu de l'ancien accord sur l'emploi du groupe et ça offrait historiquement des garanties très strictes aux salariés.
Du genre ?
Des protections contre les départs contraints, des verrous sur la mobilité obligatoire qui seraient imposés par l'employeur et aussi des boucliers très spécifiques pour les salariés seniors.
D'accord.
Mais la direction a argué que la suppression de ces clauses, c'était une condition opérationnelle sine qua non pour pouvoir réorganiser les entités du groupe.
Sauf que la logique de la CGT pointe une faille assez béante dans cet argumentaire.
Laquelle ?
Ben, le syndicat observe que toutes les grandes entités, qu'il s'agisse du réseau en agence, des services centraux, de la banque de financement, toutes ont finalement été réorganisées alors même que des baisses d'effectifs majeures avaient lieu. Donc, la conclusion tirée par les auteurs du tract, c'est que la vraie motivation derrière la suppression du chapitre 3, elle n'avait rien d'opérationnel, mais qu'elle relevait d'une stratégie purement financière.
D'accord.
Ici, ça devient vraiment intéressant. Pour utiliser une autre analogie financière, c'est un peu comme un appel de marge sur le capital humain. L'entreprise modifie les règles contractuelles de base, en cours de route, pour éviter de payer le prix fort sur la liquidation de ses positions.
La comparaison est très pertinente. En fait, si l'on relie ça à la situation globale, le mécanisme qui est dénoncé par la note syndicale, c'est ni plus ni moins qu'un mécanisme de contournement.
Ouais.
En neutralisant ses garanties historiques par le biais du nouvel accord emploi 2026-2028, l'entreprise se donne les coups des franches, pour ainsi dire.
Pour faire quoi ?
Pour restructurer la population des cadres sans avoir à leur verser les très fortes indemnités de départ qu'imposerait un plan de départ volontaire classique ou un PSE pour cette catégorie précise de salariés.
Ah, bien sûr !
Parfaitement la vulnérabilité des accords d'entreprise face aux impératifs de rentabilité. Ce qu'on considérait comme un acquis social gravé dans le marbre peut en fait être totalement démantelé lors d'une simple renégociation de cycle.
Ce qui nous amène à une mécanique encore plus complexe en fait, parce que si la modification des accords permet de réduire le coût théorique de ces départs, cette stratégie a forcément ses limites.
C'est-à-dire ?
Que se passe-t-il quand l'attrition naturelle, les gens qui partent à la retraite, les démissions, quand ça ne suit pas le rythme qui est imposé par les objectifs de rentabilité de la direction ?
C'est le nœud du problème.
Et c'est dans ce contexte que le rapport met en lumière l'affirmation, je dirais, la plus sévère, la plus explosive à l'encontre des méthodes de management de Corelli, l'utilisation présumée du levier disciplinaire.
Oui, alors là, cela soulève une question importante. Les données chiffrées qui sont issues du rapport de CECAFI, elles sont effectivement très, très frappantes sur ce point.
Qu'est-ce qu'on y voit ?
On observe un doublement des licenciements disciplinaires qui sont prévus en 2025, avec un coefficient multiplicateur de 2,1 par rapport à 2024.
Multiplié par 2, oui.
Voilà. Et le cabinet d'expertise qualifie très officiellement cette tendance de, je cite, « symptôme d'un durcissement ».
D'accord.
Et donc l'hypothèse qui est formulée par la CGK, c'est que, face à l'insuffisance de l'attrition naturelle, cette politique de tolérance zéro, elle a été instrumentalisée. Elle serait devenue un véritable outil de gestion des flux de personnel.
Bon, l'avantage financier d'une telle méthode, si jamais elle était avérée, il est évident. Licencier quelqu'un pour faute grave, ça exonère totalement l'entreprise des indemnités de licenciement et de préavis.
Tout à fait.
Mais jouons l'avocat du diable une seconde. Poussons l'analyse à contre-courant. Est-ce que la hausse de ces licenciements disciplinaires est nécessairement le fruit d'une stratégie délibérée des RH ?
C'est une bonne question.
Bah oui, parce que si on retire 10% des effectifs, la charge de travail de ceux qui restent, elle augmente mécaniquement. Le stress monte, la fatigue s'installe. Du coup, est-ce que c'est pas statistiquement logique, et même inévitable, d'observer une multiplication des erreurs de procédure, des fautes professionnelles involontaires ou juste des comportements inappropriés qui sont liés à l'épuisement ?
Alors, c'est une nuance analytique qui est indispensable, c'est vrai. La corrélation entre la réduction des effectifs et l'augmentation des fautes peut tout à fait s'expliquer par la dégradation des conditions de réalisation du travail, comme tu dis.
L'erreur humaine amplifiée par le rendement, quoi.
Exactement. Toutefois, et c'est là que ça se corse, le syndicat appuie sa théorie de l'instrumentalisation sur un événement structurel très précis.
Lequel ?
La suppression de la CPRI, c'est-à-dire la Commission paritaire de recours interne, en juillet 2024.
Ah oui, Et le timing de cette suppression est, selon le document de la CGT, tout sauf une coïncidence.
Dans la lecture syndicale, clairement, oui. Supprimer l'instance d'appel interne au moment très précis où l'on amorce une politique de sanctions beaucoup plus sévère, ça revient à retirer un contre-pouvoir essentiel.
Ce qui est troublant.
D'autant que la direction avait pourtant affirmé qu'il n'y aurait pas, je cite, « de gestion de l'emploi par un changement de posture disciplinaire ».
Et le syndicat confronte cette promesse à la réalité brutale.
Voilà. Et par ailleurs, la note syndicale, elle anticipe déjà une recrudescence des licenciements pour insuffisance professionnelle en 2026.
Sur quelle base ?
En arguant que la mise en place de nouvelles méthodes d'évaluation, qui sont prévues, elles, serviront de socle technique à ces départs. Donc la mécanique qui est décrite ici, c'est vraiment celle d'une substitution progressive.
C'est-à-dire remplacer un départ par un autre.
Exactement. Remplacer le départ économique, qui est coûteux et très encadré par la loi, par le départ contraint, disciplinaire, qui est individualisé et surtout beaucoup moins cher.
Bon, alors quand on demande à une organisation de produire autant, voire plus, avec des équipes qui sont réduites de près d'un dixième, la variable d'ajustement naturelle pour maintenir un peu de motivation, c'est généralement l'argent, la compensation financière.
Logiquement, oui.
Cal s'attarde très longuement sur la structure de rémunération.
Et c'est ici qu'on observe un décalage particulièrement marqué, pour ne pas dire béant, entre l'affichage institutionnel et la réalité comptable vécue par la majorité des salariés.
Oui, le débat sur le partage de la valeur ajoutée, c'est vraiment un classique des périodes de restructuration. La communication de l'entreprise s'articule autour de pourcentages d'augmentation qui sont très flatteurs concernant l'intéressement.
Mmh.
Ils annoncent une hausse moyenne de 41% de l'intéressement et une explosion de la participation.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie vraiment ? Parce que c'est sur la participation que la présentation des données frôle, je dirais, l'absurde statistique.
Ah oui, le fameux multiplicateur.
Voilà. La communication de la direction souligne que la participation a été multipliée par 5,9.
Sur le papier, ça a l'air exceptionnel.
C'est exceptionnel, mais la CGT rappelle les valeurs absolues. Et là, c'est un peu moins glorieux. La participation versée, elle est en réalité passée de l'immense somme de 15 euros en 2024 à 79 euros en 2025.
Ah ouais, le grand bond en avant.
Se prévaloir d'une multiplication par près de 6 quand la somme finale permet à peine de couvrir le plein d'essence d'une petite voiture, c'est quand même révélateur des limites de la communication pour les pourcentages, non ?
C'est un cas d'école, oui. L'utilisation des statistiques relatives pour occulter les valeurs absolues.
C'est ça.
Cependant, bon, pour maintenir l'objectivité de notre analyse, il convient quand même de noter que l'intéressement médian s'établit à 3 956 euros.
Oui, ce qui n'est pas rien.
Voilà, ce qui constitue un complément de revenus substantiel. Mais la critique syndicale ne porte pas uniquement sur les montants eux-mêmes. Elle cible vraiment la nature même de cette rémunération.
Ouais, parce que la distinction entre la rémunération fixe et la rémunération variable, c'est le nerf de la guerre ici.
Tout à fait.
Le syndicat insiste lourdement sur le fait que l'intéressement, par définition, c'est aléatoire. Ça dépend des résultats globaux que le salarié de base ne maîtrise pas du tout.
Et surtout, gros point noir, ça ne rentre pas dans le calcul des cotisations pour leur retraite.
Exactement.
Et la donnée la plus lourde de conséquences qu'on trouve dans le rapport, c'est la suivante. 55% des salariés n'ont reçu aucune, mais alors aucune augmentation de salaire fixe en 2025.
Plus de la moitié, oui. Par effet de ricochet face à l'inflation qu'on connaît, la note estime que 41% des collaborateurs ont carrément subi une perte de pouvoir d'achat entre 2021 et 2025.
Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il s'agit d'un transfert de risque majeur.
C'est-à-dire ?
En privilégiant l'intéressement aux augmentations générales du salaire de base, eh bien l'entreprise transforme une charge fixe incompressible en une charge variable.
Ah, je vois.
C'est très habile. Si les résultats du groupe fléchissent à l'avenir, la masse salariale s'ajustera automatiquement à la baisse par la simple diminution de ses primes. Et ça, sans que l'entreprise n'ait à modifier les contrats de travail ou à geler des salaires de manière active.
Le risque est porté par l'employé.
C'est une stratégie de couverture financière tout à fait classique, en fait, que la CGT dénonce comme une précarisation du pouvoir d'achat, le tout sous couvert d'une politique de prime qui se veut flatteuse et généreuse en vitrine.
D'accord. Et cette approche comptable, on l'observe également sur le terrain de l'égalité professionnelle ?
Oui, un autre sujet très sensible.
Le document indique qu'un budget spécifique de 9 millions d'euros a été alloué par la direction pour réduire les inégalités salariales entre les femmes et les hommes.
9 millions, ça semble beaucoup.
Ça semble beaucoup. Pourtant, le résultat rapporté par l'expertise est une réduction de l'écart d'à peine 0,7 points.
Ah oui.
En moyenne, dans le groupe, les femmes continuent de percevoir une rémunération inférieure de 12,7% à celle de leurs collègues masculins.
Mmh.
Ça démontre quand même la grande inertie de ces écarts structurels, même face à des lignes budgétaires qui, de l'extérieur, semblent assez massives.
Absolument. Parce que, rapporté à une masse salariale de plusieurs dizaines de milliers de personnes, ce budget de 9 millions d'euros, il agit en fait comme un correctif marginal.
Une goutte d'eau, en gros.
C'est ça. C'est incapable de résorber un écart de 12,7% sur le court ou même le moyen terme. Et cela illustre bien la primauté de la contention des coûts fixes sur les objectifs de rattrapage structurel, même quand il s'agit d'égalité femmes-hommes.
Le tableau se précise drôlement, là. On a donc la suppression de garanties légales, le gel des salaires fixes pour une majorité du personnel, le transfert du risque financier via les primes aléatoires et un accroissement spectaculaire de la pression disciplinaire perçue par les syndicats.
Ça fait beaucoup.
La question qui émerge naturellement après tout ça, c'est celle de la facture humaine, l'impact physiologique et psychologique sur le corps social. Le document de la CGT, en s'appuyant sur les propres baromètres internes de l'entreprise, décrit un climat extrêmement tendu.
Et nous passons ici de la pure analyse financière à l'évaluation du risque opérationnel, et surtout du risque psychosocial.
Qu'est-ce que disent les chiffres ?
Les indicateurs qui remontent du baromètre du climat social, ils mesurent une dégradation qui est très tangible. Le sentiment de bien-être, par exemple, il est noté à 5,7 sur 10.
Ouch.
Le niveau de stress évalué, lui, atteint 6,9 sur 10. Et plus critique encore pour le fonctionnement même de l'organisation, le taux d'engagement tombe à 44%.
44%, moins de la moitié.
Voilà. C'est un niveau historiquement faible qui traduit vraiment un désinvestissement cognitif d'une majorité des collaborateurs. Seul un tiers des salariés, 33%, estiment désormais que leur santé mentale est réellement prise en compte par l'employeur, contre 44% en 2024.
Et au-delà du déclaratif, les conséquences purement physiques, médicales, sont aussi documentées dans le rapport. Le chiffre des accidents du travail affiche une hausse de 24,5%.
Ce qui est énorme dans le secteur tertiaire.
Dans une banque, oui. L'absentéisme global progresse de 5% et les affections de longue durée, les ALD, sont en augmentation de 1,2%.
Mmh.
D'ailleurs, la note syndicale soulève un paradoxe particulièrement éclairant, je trouve, sur le périmètre de la SGRF, donc le réseau France de la Société Générale.
Mmh.
Dans ce secteur très précis, les ALD ont augmenté de 1,3%, alors même que les effectifs ont été amputés de 7%. La CGT s'interroge, comment interpréter l'augmentation des arrêts longue durée au sein d'une population qui est de plus en plus restreinte ? Plus d'arrêts longue durée pour moins de monde.
Eh bien, ce paradoxe statistique, c'est la signature classique d'un phénomène de report de charge.
Expliquez-nous ça.
En fait, la disparition de 7% des effectifs ne s'accompagne pas d'une disparition équivalente des processus à gérer, ni des objectifs commerciaux, ni de la charge administrative.
Le travail ne disparaît pas avec le travailleur.
Exactement. Les 93% de salariés qui restent absorbent le volume de travail résiduel. L'augmentation des ALD, des burn-out, des longues maladies, ça devient alors l'expression clinique, physique, de l'usure de cette population résiduelle, qui est soumise à une intensité de travail non régulée.
Et cette usure, elle se manifeste également sur un autre terrain, le terrain juridique. Et d'une manière assez spectaculaire, le chiffre qui clôture ce constat alarmant dans le document, c'est l'augmentation de 85% des affaires prud'homales entre 2022 et 2025.
C'est massif.
Une quasi-multiplication par deux des conflits qui sont portés devant la justice du travail. Là, ce n'est plus simplement de la petite grogne interne à la machine à café, hein. C'est carrément l'externalisation d'un conflit que les instances internes n'arrivent tout simplement plus à désamorcer.
Tout à fait. Et en management, la judiciarisation, c'est ce qu'on appelle un indicateur de retard, un lagging indicator, en termes de gestion des risques.
Un symptôme final.
En gros, oui. Quand les recours aux prud'hommes explosent de 85%, ça signifie que l'ensemble de la chaîne de médiation interne, que ce soit les RH, les managers de proximité, les instances représentatives, a échoué à endiguer le conflit. C'est précisément ce qui fonde l'avertissement très solennel qui est émis par l'expert Secafi dans la conclusion de son rapport.
Que disent-ils ?
La question posée à la direction par le cabinet, elle n'est pas du tout d'ordre moral, elle est purement stratégique. Secafi demande comment le groupe entend-il accompagner la croissance attendue de ses revenus tout en garantissant l'équilibre des salariés malgré une forte réduction de l'emploi et ce, sans générer de points de rupture.
des points de rupture. L'expression est forte. Ce concept de point de rupture, il synthétise parfaitement l'enjeu de cette exploration.
Absolument.
En fait, l'ingénierie d'une restructuration, surtout pilotée par des tableurs financiers, ça a tendance à considérer le capital humain comme une matière parfaitement élastique. Un truc capable d'absorber indéfiniment la contraction des ressources et le gel des salaires. Mais ce document, à travers ses chiffres d'accidents, d'arrêts maladie, de contentieux prud'homaux, il vient rappeler la nature inélastique et carrément biologique du travail humain. C'est comme un moteur qu'on fait tourner en sur-régime constant, mais avec de moins en moins d'huile.
Il finit par serrer.
À un moment donné, la mécanique rompt, avec des conséquences financières et opérationnelles qui peuvent au final neutraliser les bénéfices même de la restructuration de départ.
Et c'est vraiment l'enseignement fondamental de cette analyse. Nous observons en temps réel la limite d'un modèle d'optimisation. Lorsque la rentabilité du groupe exige de déconstruire les protections conventionnelles, d'augmenter le niveau de coercition pour accélérer la réduction des effectifs, et en plus de transférer le risque financier sur une base salariale qui est déjà sous très forte tension, l'institution s'expose à un risque systémique.
Carrément systémique.
Oui. D'ailleurs, l'analyse détaillée de ce conflit social, elle soulève une hypothèse encore plus vaste. À la fin,
laquelle ?
Ne sommes-nous pas en train d'assister à l'obsolescence structurelle du modèle traditionnel du salariat dans le secteur bancaire de détail ?
Waouh ! La question est posée.
Un modèle historique qui, parce qu'il est incapable de générer de la croissance organique suffisante avec les taux ou la concurrence actuelle, se maintient à flot uniquement par une pression interne d'une intensité totalement inédite. C'est un point de rupture institutionnelle que la prochaine crise pourrait bien exposer au grand jour.
C'est une perspective qui donne vraiment matière à réflexion et qui invite à regarder bien au-delà des bilans comptables immédiats des banques. Si les indicateurs de santé publique et de cohésion sociale virent au rouge cramoisi au sein même d'institutions qui sont aussi structurées et protégées historiquement, la question de la viabilité à long terme de ces méthodes de management s'oppose avec beaucoup d'acuité.
Tout à fait.
Jusqu'où la rationalisation, à court terme, peut-elle sacrifier l'infrastructure humaine sans compromettre la survie de l'entreprise elle-même ? Voilà un sujet complexe, provocateur, mais indispensable pour quiconque s'intéresse aux évolutions profondes et parfois très invisibles du monde du travail contemporain. On vous laisse méditer là-dessus.